Je suis reconnaissant de pouvoir être parmi vous ce matin, encore un peu gêné par ma cervicalgie, donc merci pour vos prières. Mais voilà, heureux de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin avec vous. Et je suis particulièrement bouleversé par la façon dont l'Esprit du Seigneur nous conduit dans notre semaine, les uns et les autres à son écoute. Et puis, je me faisais tellement de sang, on va dire, d'encre avec le sujet que j'aborderai ce matin, parce que c'est un imprêchable. Hein. Il est connu pour être classé dans la catégorie des textes sur lesquels pratiquement on ne prêche jamais. Et je me suis dit, mais il faut que j'en parle. Hein. Et vous allez voir qu'il y a tellement une unité avec ce qu'on vient de vivre. Oui, parce qu'il y a des textes de la Bible qui semble vous plonger dans une nuit noire et comme si vous avez pour seul appui une bûchette d'allumettes, vous devez la craquer une seule fois et une fois qu'elle est craquée, eh bien, vous vous orientez à partir de cette petite bûchette d'allumettes. Vous comprenez qu'on marche de manière tâtonnante et peut-être qu'il est bien de temps en temps de rappeler que la Bible n'est pas qu'une parole à laquelle on a accès comme ça immédiatement et qu'il n'y a pas qu'à ouvrir et puis Dieu nous parle de manière claire et que c'est un texte qui a aussi sa dimension parfois énigmatique. Et d'ailleurs, le texte que je vous propose ce matin fait partie de ces textes qui ont exercé la sagacité des interprètes, des exégètes. Et ce matin, nous allons être entre histoire de l'Église et écoute de l'exhortation plus proche de nous que le Seigneur voudrait nous adresser, je le crois, ce matin. Je vous propose donc de réfléchir à partir de 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, chapitre 4, verset 6, sur un thème, descente aux enfers et prédication aux morts. Descente aux enfers et prédication aux morts. Qui a déjà lu quelque chose sur le sujet? Formidable. Qui a déjà prêché sur le sujet? Qui a déjà écouté une prédication sur le sujet? Bon, nous allons ensemble cheminer avec le texte, un extrait de texte de 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22, et puis le chapitre 4, verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu et à qui ange, autorité et puissance ont été soumis. Et un peu plus loin, chapitre 4, verset 6, bon, je vois qu'on a des problèmes avec la compatibilité du PowerPoint. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Écoutez bien encore. Hein. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. jusqu'ici. On peut juste rafficher la slide sur le thème qui restera, voilà, comme un rappel de notre question de ce matin. La première épître de Pierre est d'abord adressée aux chrétiens dispersés dans la diaspora, dans différentes provinces de l'Empire romain d'alors, dans un contexte extrêmement hostile à cette minorité qui a une étrange manière aux yeux des païens de vivre à cause du nom de Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ. C'est pour les aider à tenir bon dans leur foi malgré cette hostilité, malgré les vexations dont ils sont l'objet, discriminations, souffrances injustes qu'ils subissent, que l'apôtre Pierre leur adresse cette lettre pour les encourager, non seulement à tenir bon dans la foi, je l'ai dit, mais également à conserver au milieu d'un monde en décrépitude morale une bonne conscience, une conscience intègre. Il leur dit « Brillez comme des flambeaux dans la nuit du monde. » Pierre, après avoir posé un regard sur la situation de cette église dispersée, après avoir dit qu'il était conscient des diverses épreuves qu'ils traversaient, après leur avoir expliqué qu'ils étaient comme dans une fournaise et ils étaient comme de l'or brut jeté dans cette fournaise et que cette souffrance allait avoir une vertu de purification en quelque sorte, va maintenant détourner leur regard de leur propre condition pour l'orienter vers la personne de Jésus-Christ. Et ce faisant, il les invitait à se décentrer d'eux et il nous invite ce matin. Alors que nous avons parlé et loué le Seigneur pour nos souffrances, que nous avons prié pour des libérations ce matin, que nous sommes venus charger et que le Seigneur Jésus a posé sa main sur nous, a entendu ce que nous avions à lui confier, même si nous ne sommes pas avancés. Eh bien, maintenant, nous voulons encore, et la louange nous y a beaucoup conduit, poser les regards sur Jésus-Christ. Et lorsque Pierre invite les premiers chrétiens à poser les regards sur Jésus-Christ, écoutez comment il le décrit à partir du verset 18. On va rester dans l'écoute, ça ne va plus s'afficher, on reste sur cette slide. « Car le Christ lui-même, dit Pierre, a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'esprit. » Pierre nous dépeint Jésus, le juste par excellence, lui qui était sans péché, comme le juste souffrant, injustement, à la place des injustes, de nous tous, pour nos péchés. Jésus, le juste, a souffert pour des injustes que nous sommes, afin de nous amener à Dieu, dit Pierre. En quelques mots, Pierre rappelle donc la souffrance totale. S'il y a bien une souffrance totale, c'est celle que le Christ a souferte. Souffrance totale qui a pris la totalité de sa vie dans une totale injustice. Événement unique de l'histoire. Événement qui ne se répétera plus. Et c'est la raison pour laquelle le texte grec, je ne peux pas faire plus ou moins, utilise un mot, apax, que nous traduisons comme cela doit être traduit, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et nous trouvons ce mot dans d'autres occurrences de la Bible pour souligner le caractère unique des souffrances que le Christ a consenti d'endurer à la croix. Souffrance de sa passion de son agonie, souffrance pendant toutes ces heures de la crucifixion, souffrance de cet abaissement jusque dans son tombeau, souffrance jusqu'au cœur du mystère du séjour des morts dont nous en parlerons. Une fois pour toutes, l'apôtre Paul disait aux Romains, chapitre 6, verset 10, vous pouvez noter, vous relirez tranquillement à la maison, « S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, à Pax. Et s'il vit, il vit pour Dieu. » Et au chapitre 7, verset 27 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit, « Il n'a pas besoin, parlant de Jésus-Christ comme grand prêtre, nous y reviendrons, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait à Pax, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Jésus a souffert la passion et la mort une fois pour toutes. Et cet événement a une portée sacrificielle. D'abord parce que la mort de Jésus a valeur de sacrifice pour les péchés. Mais le sacrifice total et parfait qui rend dorénavant caduque tous les sacrifices d'animaux qu'on avait dans la première alliance ou dans l'ancienne alliance. Voilà pourquoi notre culte n'est pas une religion d'un formalisme extérieur. Jésus le Christ a donné totalement sa vie parfaite et sa mort sacrificielle nous permet d'être pardonnés parfaitement là aussi. Et cette mort sacrificielle a également une valeur substitutive, remplacement, puisqu'il nous a dit que lui, le juste, il a pris la place des injustes. C'est pour nous, c'est pour toi. Oui, pour toi et pour moi qu'il a souffert. Ce n'est donc pas une histoire qui concerne seulement quelques-uns. Ce n'est pas juste une histoire pour ces gens qui ont besoin de pardon. C'est l'histoire de notre humanité. C'est l'histoire de cette humanité que Dieu veut racheter. Et en Jésus-Christ, et dans cet événement unique de la croix, se jouait un combat spirituel. Jésus a combattu toutes les forces d'anéantissement de la vie, toutes les forces d'accusation, toutes les forces d'oppression, afin que toi et moi, nous soyons libérés de tout ce qui nous empêche d'aller vers cet élan de vie qui jaillit de son cœur. C'est pour nous, dit Esaïe, au chapitre 53, versets 4 à 6, et sans doute que Pierre a en tête Esaïe. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé, et nous en souviendrons en partageant le pain et le vin, à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction, dans d'autres versions, le châtiment qui nous vaut la paix, le shalom, la réconciliation, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, ces meurtrissures que nous avons été guéris, guéris totalement de cette maladie du péché et guéris de cette angoisse de la mort et de la séparation éternelle d'avec Dieu. Guéris aussi, et nous l'avons entendu, dans sa grâce souveraine pour les uns et les autres, y compris souvent de maladies physiques, mais guéri aussi dans notre âme. Nous étions tous errants comme du petit bétail. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Face à la victoire illusoire et apparente de la mort, au vendredi saint, vendredi de la crucifixion, Pierre pose nos regards à la fin du verset 18, texte principal sur lequel je reviens, non pas sur une histoire de mort, mais sur une histoire de victoire, de triomphe, de vie. Celui qui a été mis à mort, quant à la chair, c'est-à-dire une mort corporelle, il n'est pas mort symboliquement, il n'a pas fait semblant de mourir. Ça a été d'ailleurs une hérésie qui a traversé l'Église au début de l'ère chrétienne. C'est le docétisme. Il a fait semblant, il a pris l'apparence qu'il y a. Et Pierre nous dit non, il a été mis à mort quant à sa chair, c'est-à-dire dans son humanité. Une mort réelle, corporelle. Et il s'empresse de dire aussitôt, de manière contrastée, il a été vivifié quant à l'esprit, pour parler de sa résurrection. La résurrection de Jésus décrit par Pierre comme une vivification par l'esprit de vie qu'il a relevé de la mort. Et à partir de là, Pierre va nous dire la suite qui a inspiré le titre de cette prédication. Mais avant, arrêtons-nous sur deux conséquences positives et permanentes de cette mort sacrificielle pour nous chrétiens aujourd'hui. Pierre dit qu'il a fait tout ça une fois pour toutes. Ça ne va pas recommencer, les amis. Une fois pour toutes, afin de nous amener à Dieu. Il y a ici le thème de l'accès au Père. Grâce à ce que Jésus a accompli une fois pour toutes, il a ouvert, tu traces un chemin, on a chanté. Tu opères des miracles. Il a tracé un chemin, une voie ouverte pour que tu ailles, pour que tu reviennes au Père, à la maison du Père, pour que tu reviennes au cœur du Père. Ta vie a une source, mon ami, mon frère, ma sœur. Et cette source, c'est le cœur du Père, le Créateur. Et Jésus est mort pour te faire revenir à la maison. Et le Père t'attend. Et le Père t'accueille dans son amour et dans sa miséricorde. Première conséquence. Tant et si bien d'ailleurs que l'Épître aux Hébreux nous dit, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement, car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Oui, parce qu'il a été vraiment homme. À l'exception du péché, il a partagé pleinement notre condition. Il a été soumis, nous dit l'auteur, sans péché, à des épreuves en tout point semblables. Nous ne sommes plus sur nos épreuves, mais nous méditons les épreuves du Christ. Toutes sortes d'épreuves, nous dit le texte. Et alors, il dit, ça doit nous mettre en marche. On ne peut pas entendre ça et ne pas se bouger. On ne peut pas entendre ça et ne pas réagir. Voilà pourquoi il poursuit en disant, approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Non pas l'esprit de peur, non pas l'esprit d'esclavage. Avec assurance. Du trône de la grâce. Pour obtenir compassion. Trouver grâce en vue d'un secours opportun. Tu as besoin de compassion. Tu as besoin de grâce. Tu cherches à être aimé. Tout ce que tu fais dans ta vie est une quête consciente ou inconsciente de reconnaissance, de validation. Et peut-être que tu souffres parce qu'elle ne vient pas ou elle ne vient que très peu. Il y a un lieu, il est un lieu où le Père veut t'embrasser et te dit « Bienvenue, mon fils et ma fille, à la maison. » Un lieu où tu trouves compassion pleinement, un lieu où tu es reconnu, un lieu où la grâce de Dieu est efficace en toi. C'est la victoire, mes amis, que le Christ nous a acquise. Et cette victoire, il a voulu que nous le sachions, que cela nous parvienne. Et maintenant, à partir du verset 19, Pierre va nous parler et va nous entraîner dans ce passage compliqué. Au verset 19, il dit, dans cette lancée. Hein, rappelle le verset 18. Hein, verset 18 se terminait. Hein, mise à mort quant à la chair, donc il est vraiment mort corporellement, ayant été vivifié quant à l'esprit, pour parler de la résurrection, il continue en disant, c'est ainsi ou c'est alors, suivant vos versions, qu'il est aussi allé, le même verbe, aller, on va voir ça, faire la proclamation aux esprits en prison. Là commence notre discernement d'interprétation. J'ai eu le privilège d'être enseigné, je pense, par l'un des spécialistes français du Nouveau Testament, de regretter mémoire, le professeur Samuel Benetro, qui a écrit de nombreux commentaires de la Bible, dont un commentaire sur ce passage. Alors ça m'a permis de réviser un peu mes cours, et surtout de consulter ce que ce docteur que le Christ avait donné à son église de France, qui n'est pas très connu, mais qui a été un enseignant fidèle. Comment lui, il a lu cela? Parce que bien sûr, la prédication, c'est aussi le lieu de l'étude, de l'écriture, de la recherche. Hein. Ce n'est pas la pensée infuse, là. Alors, d'abord, ces esprits en prison. Vous en avez entendu parler? Qui sont ces esprits en prison? Il y a deux problèmes que le texte soulève. Qui sont ces esprits en prison? Qui va prêcher aux morts dans un cimetière? Jésus est-il vraiment allé au cimetière parler aux morts? Enfin, au cimetière, je transpose un peu. Au séjour des morts, au Sheol, l'Hadès, qui a été traduit ensuite en latin infernos, enfer. Alors nous, ça mobilise des représentations terribles. On cherche l'endroit où on a creusé un gros trou et où on a mis le feu et les flammes. Voilà. Ce n'était pas du tout la représentation qu'en avaient les Juifs, d'une part, mais aussi pas du tout la représentation que le mot ici veut évoquer. Le mot veut parler de là où les morts sont endormis, attendent pour un temps. Et la deuxième question que ça soulève, et je vais tenter d'y répondre modestement, c'est mais en quoi a consisté ce ministère de Jésus? A-t-il vraiment prêché, évangélisé les morts? Est-ce qu'ils ont répondu? D'abord, qui sont les esprits en prison? Trois solutions, nous dit Samuel Benetro, ont été proposées. D'abord, premièrement, on a pensé que les esprits en prison sont les âmes des contemporains de Noé, puisque le verset 20 nous parle de ce qui s'est passé au temps de Noé. Et on a pensé que ce sont des contemporains, dont ceux qui ont vécu au temps de Noé, qui étaient dans les âmes, parce que au temps de Noé, vous savez, les chapitres 6 à 9 de la Genèse, il nous est raconté vraiment la dégringolade morale qui va conduire l'humanité vers une catastrophe, il y aura le déluge. Mais juste avant, on voit le mal atteindre son paroxysme dans cette période-là de l'histoire. Et donc certains interprètes disent, mais ce sont les âmes de ces personnes-là, celles qui ne sont pas rentrées dans l'arche, qui sont en prison. Donc le séjour de mort ici est perçu comme une prison. Ils sont en prison. Jésus serait allé à eux. Je dis serait, ce sont des hypothèses de lecture. Et puis il y a une autre thèse qui dit oui, effectivement, ce sont bien ceux qui ont vécu à l'époque de Noé dont il est question, mais de leur vivant, pendant qu'ils vivaient encore. Ça, c'est saint Augustin qui va nous l'apprendre. Mais alors, comment Jésus a pu prêcher aux contemporains de Noé alors qu'il n'était pas encore incarné et qu'il n'était pas encore venu sur terre? Et là, saint Augustin dit, mais n'oubliez pas, Jésus a préexisté de toute éternité. En fait, Noé a prêché, parce que la Bible appelle Noé prédicateur de justice, Noé a prêché à ses contemporains pendant qu'ils construisaient l'arche et qu'eux mangeaient, fêtaient, mariaient leurs filles, leurs fils. C'est le texte biblique qui le dit. Vivaient en un mot, quoi, tout simplement. Il dit c'est Jésus qui leur parlait à travers la bouche de Noé. Eh bien, ils n'ont pas écouté. Ils ne se sont pas remis en question. Eh bien, ils sont allés en prison. Mais cette prison, ajoutera Augustin, en fait, est une prison spirituelle, parce que ce deuxième point de vue spiritualise beaucoup. La désobéissance terrible de ces personnes manifeste que leur esprit, ils étaient spirituellement prisonniers du mauvais, du mensonge de Satan. Esprit en prison vers l'époque de Noé. Et puis, il y a une troisième lecture possible qui a été proposée, c'est que, et qui nous ramène toujours d'ailleurs au temps de Noé, parce qu'on a, on peut pas esquiver le verset 20. Ce sont non pas des esprits d'hommes et femmes, humainement, mais ce sont des esprits mauvais, les esprits invisibles, les puissances célestes. Mais les puissances célestes rebelles, déchues. Et puisque l'auteur nous parle de ce qui s'est passé au temps de Noé, alors les interprètes y sont retournés et ils ont lu Genèse 6, versets 1 à 4, et ils ont cru identifier précisément ces esprits en prison qui seraient ce que l'Écriture appelle les fils de Dieu, qui se sont mariés aux filles des hommes. Voilà trois options possibles, trois lectures, trois hypothèses. Mais alors, qu'est-ce que Jésus allait faire là-bas? Qu'est-ce que Jésus va faire au séjour des morts? Est-il même descendu dans le séjour des morts? Tout d'abord, Samuel Benetro nous rappelle que l'Église a une longue histoire. Et que tout au long de cette histoire, elle a voulu formuler et rendre explicite pour les croyants les articles de foi que nous confessons. Et très tôt, on ne sait pas exactement, en tout cas autour du 2e siècle, c'est certain, après Jésus-Christ, circule donc un certain nombre de confessions de foi, dont cette fameuse confession de foi dite le symbole des apôtres. Non, pas tout à fait de Nicée, ça c'est beaucoup plus tard. Nous allons fêter les 800 ans du symbole de Nicée dans quelques jours, le 20 mai. Donc vous verrez passer la communication. Je reviens donc au symbole des apôtres. Et il est vrai que quand nous disons le symbole des apôtres, qui n'a pas été écrit par les apôtres, c'est toujours bien de le rappeler, mais en tout cas qui veut s'inscrire et s'appuyer sur l'enseignement des apôtres. Et là, nous confessons que Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, il a été... Vous ne connaissez pas votre credo, Vous parlez en langue, là, maintenant, Alors, il faut qu'on ait l'interprétation, Non, mais c'est bien. Pour ceux qui écouteront, ils récitent tous le credo. C'est rare dans une église protestante évangélique. Et parfois, c'est dommage. Il est descendu, il a été enseveli, et on dit, il est descendu aux enfers, au séjour des morts. Descendit ad infernos. Eh bien, c'était la préoccupation de l'Église. Comment on va faire? Il faut maintenir. Et donc, en 359, d'après Samuel Benetro, on trouve pour la première fois dans le symbole des apôtres cette affirmation. Il est descendu aux enfers. L'Église ancienne voulut donc montrer que durant ce qu'on appelle le triduum, les trois jours, en tout cas le laps de temps qui a séparé la crucifixion de la Pâque, Jésus n'est pas resté inactif. Jésus n'est pas resté inactif. Alors il serait descendu au séjour des morts, dans le Sheol, et là, il aurait eu un ministère. Pour preuve, nous dit-on, 1 Pierre chapitre 4 verset 6 nous dit, c'est pour cela en effet que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alors ceci a ouvert la possibilité à un florilège d'interprétation. Je vais aller rapidement parce qu'on n'est pas en faculté de théologie, mais quand même c'est bien de temps en temps de rappeler un peu l'histoire d'interprétation d'un texte biblique. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Parce que ce silence est inhabituel. Je les ai perdus, ils dorment là, ça y est. L'objectif, c'est que vous retourniez à la maison et vous lisiez tout un pire en disant, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que je ne me suis jamais arrêté ce passage? Alors, il y a eu plusieurs thèses. La première thèse, vous connaissez ce chant qui a dit, on ira tous au paradis? Retenez ça, ça c'est la première thèse, ce qu'on appelle une thèse universaliste. Alors, cette thèse universaliste comprend ce passage en disant, eh bien, tiens, vous voyez bien, Vous qui voulez faire peur aux gens avec cet enfer. Oui, bien sûr que la Bible parle de l'enfer. Mais Jésus est descendu aux enfers et il a ouvert les portes de cette prison et tous les morts, croyants ou non croyants, en sont sortis. En gros, il a vidé l'enfer, comme disait Origène par ailleurs. On ira tous au paradis. Est-ce qu'on ira tous au paradis? Vous devez vous poser la question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour entrer au Cameroun, il faut un visa. Et en France aussi, ça peut vous donner une indication. On peut toujours rentrer par bateau, mais ça rend la vie compliquée. En tout cas, à un moment donné, il faut une reconnaissance qu'on est bien entré et qu'on peut y séjourner. Je referme la petite digression sur les situations de vie délicates et douloureuses. Nous les accompagnons pastoralement avec amour, bien sûr. Donc, première thèse, l'enfer est vidé, on ira tous au paradis. Jésus est descendu et il a prêché, non, il a proclamé sa victoire, il a démontré, il a ouvert. Et tout ce qui était retenu captif depuis le temps de Noé jusqu'à présent, n'ayez plus peur, l'enfer sera vide. Deuxième option, c'est une option qu'on doit à Saint Augustin, dont on appelle ça la thèse augustinienne, de son nom. Jésus, je l'ai déjà dit, donc je vais aller vite, préexistant, a prêché par Noé à ses contemporains rebelles avant le déluge. Donc pour Augustin, qui ne veut surtout pas entendre parler de l'universalisme, il n'est pas d'accord qu'on ira tous au paradis, et il n'est pas d'accord non plus de dire que les esprits en prison étaient les contemporains de Noé en enfer. Et il nous propose un autre niveau de lecture, on appelle un peu une lecture spirituelle. Alors il dit, Jésus a bien parlé aux esprits en prison, mais aux hommes et femmes de l'époque de Noé qui étaient spirituellement morts. Et avant qu'ils ne décèdent physiquement, il est bien allé là-bas. Alors on se demande pourquoi à eux seulement. Et puis surtout, qu'est-ce qui s'est passé après? Augustin ne nous dit pas s'ils ont répondu à l'appel de Jésus. La troisième thèse, celle qu'on pourrait qualifier de luthéro-réformée, donc les protestants y ont adhéré, parce qu'à chaque fois, personne n'a remis en question l'affirmation « il est descendu aux enfers ». Ça, c'est ce qu'on peut constater. Personne ne va jusqu'à remettre ça en question. Mais on cherche le fondement biblique et on ne trouve pas des textes complètement indiscutables qui le fondent. Alors, les protestants réformés, Luther, Calvin et d'autres, vont concéder aussi cette affirmation entrée dans le credo en 359, il est descendu aux enfers, mais vont tout simplement rappeler que ça ne pouvait pas être une prédication. Or, le mot grec qui est utilisé dans le texte est toujours traduit par évangélisation. D'ailleurs, le verset 6 de 1 Pierre chapitre 4, dans le chapitre suivant, dit bien qu'il y a les morts ont été évangélisés. Et parler d'évangélisation, ça voudrait dire qu'il y a eu une présentation de l'offre du salut et que ça attendait une réponse. Alors là, les protestants disent, bon, on veut bien confesser qu'il est descendu jusqu'au séjour de mort, mais quand même, il n'a pas pu prêcher l'évangile aux morts. Aucun exemple biblique ne nous montre qu'on prêche l'évangile aux morts. Dieu est le Dieu des vivants. Alors, il n'a pas prêché, il est juste allé proclamer. Une proclamation n'est pas une prédication. C'est-à-dire, il n'attendait pas une opportunité de repentance des morts. Il n'attendait pas un retournement des morts. Et puis, on peut convoquer, par exemple, la parabole du juste et de Lazare. Ou, s'il te plaît, envoie-le, Jésus. Quand ils étaient vivants, ils ont eu l'opportunité. Ils ont entendu Moïse et les prophètes. Et ceux qui restent, si vous ne voulez pas qu'ils finissent là, dit Jésus, eh bien, ils n'ont qu'à écouter, ils ont encore Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils n'ont qu'à écouter. Donc les protestants disent, vous voyez, il n'y a pas d'évangélisation des morts, mais une proclamation, au sens où Jésus, pendant ce triduum, il a soulevé la coupe en quelque sorte. Il a dit, j'ai vaincu la mort. Il leur a annoncé en quelque sorte son triomphe total sur la mort. Vous voyez, c'est compliqué. Hein? Et donc je vais vite, parce qu'avec Augustin, on a traversé au 4e siècle, avec les luthéraux réformés, on traverse le Moyen-Âge finissant, et tout, arrivons donc à la modernité. Parce qu'au 20e siècle, on lit encore la Bible, et on lit encore heureusement ce passage, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors une thèse, que je qualifie de thèse moderniste, a émergé, et avec la modernité aussi un peu plus d'audace, et elle va s'inscrire un peu en rupture de cette affirmation. En faisant constater, il fallait quand même pouvoir ici arrêter, qu'à deux reprises, le verbe grec qui est traduit par « descendu » est utilisé. Il est utilisé au verset 19, quand il nous dit qu'il est allé. Et ils font remarquer que ce n'est pas « il est descendu », on peut aller sans descendre. C'est « il est allé ». Et j'ai voulu regarder les interprétations de ce texte dans les concordances grecques et dans tous les outils que j'ai à disposition. Et effectivement, la traduction, c'est « aller », c'est « séjourner », c'est « pass over », c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément « il est descendu ». Alors, ils disent, en plus, regardez bien ce que Pierre dit. « Celui qui a été mis à la mort quant à sa chair, vivifié quant à l'esprit, dont la résurrection, est aussi allé ». Alors, ils comprennent qu'il n'est pas descendu, mais qu'il est monté. Et c'est précisément ce que dit la fin du verset, n'est-ce pas ? Verset 22, si vous lisez, on retrouve la deuxième fois le même verbe. Et là, qu'est-ce qu'on nous apprend ? On nous apprend que le Christ est monté au ciel, son ascension, qu'il siège à la droite de Dieu le Père, que les puissances lui sont soumises et qu'il reviendra juger les vivants et les morts. Vous retrouvez votre credo ? Ce passage nous aide à voir que le credo, le symbole des apôtres, est donc fondé bibliquement, théologiquement, et que ce n'est pas quelque chose que d'autres chrétiens seulement doivent dire, doivent pouvoir dire. C'est d'ailleurs donné d'une certaine façon comme un lieu où les chrétiens de l'Église occidentale, orientale, tous les chrétiens peuvent dire au moins ces affirmations fondamentales de la foi chrétienne. Oui, nous croyons que Jésus, Fils de Dieu, éternellement Dieu, vrai homme, ça c'est Nicée, Dieu né de Dieu, donc ça c'est beaucoup plus tard que ça sera approfondi comme ça, mais qu'il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Et maintenant, là, il y a des options. Certains vont comprendre qu'il est descendu aux enfers, sans ce, j'ai envie de dire, premier de l'expression. Calvin comprenait qu'il a souffert totalement la passion et la rupture. Voilà, il a eu une formule qui a esquivé un peu la difficulté. Mais ce qui est fond, ce qui est magnifique, merveilleux, c'est que nous pouvons dire qu'il est ressuscité au troisième jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Alors, après ce survol rapide au plan historique, que devons-nous retenir ? D'abord, constatons que l'interprétation montre qu'il y a des différentes options. C'est important, ça, que dans une église locale aussi, qu'on sache que tout en se réclamant de la fidélité au Seigneur et à sa parole, nous pouvons parvenir à différentes options. Et que cela n'a pas effondré l'Église. Il y a une légitimité saine, d'ailleurs, de pouvoir avoir parfois, sur des questions secondes, même si ici on est sur une question quand même de premier rang, mais par rapport à la résurrection, la question de savoir combien de temps il a passé au séjour des morts et si vraiment il a prêché aux morts, paraît à ce soir. Tout ce que nous disons ensemble de fort, c'est qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Alors, est-ce qu'il a prêché aux morts ? Est-ce qu'il n'a que proclamé ? Ça devient secondaire. Et on peut se permettre d'avoir des options différentes. Et ça nous éduque à vivre nos différences, y compris théologiques, en église, en frères et sœurs, sans tomber à l'âge des anathèmes, des malédictions, à l'âge où on disait « mais voilà, tu n'es pas chrétien ». Si tu ne penses pas comme moi. Attention. Alors, que pouvons-nous retenir ? Pour encourager, je vais comme ça vers la conclusion, les destinataires de sa lettre à tenir ferme dans leur foi et à supporter la souffrance injuste qui leur est imposée dans un monde païen, Pierre veut leur montrer, et c'est important pour nous aussi ce matin, le triomphe et la seigneurie totale du Christ sur la totalité du monde, invisible et visible, sur la terre, sous la terre, pour ceux qui se représenteraient l'enfer là-bas, dans les cieux. Et voilà pourquoi, comme c'est compliqué de localiser, il n'y a pas le GPS pour ça, hein, on englobe ça dans cette formule, chose visible et invisible. Tout le mystère n'est pas levé, mes amis. Mais une conviction théologique forte qui doit nous animer et qui animait les apôtres, et là on est apostolique quand on le dit, c'est que sur la totalité de l'univers, Jésus est Seigneur. C'est que sur la totalité des réalités célestes, visibles ou invisibles, Jésus est Seigneur. Et que même dans la souffrance injuste, et que même dans tout ce que nous ne comprenons pas, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur dans mes larmes. Il est Seigneur dans mes joies. Il est Seigneur dans mes luttes. Il est Seigneur dans mes victoires. Jésus est Seigneur, et c'est bien ce que l'apôtre Pierre voudrait que les chrétiens comprennent. Non, ils ne sont pas du mauvais côté en étant dans une minorité. Il leur rappelle qu'avant eux, bien longtemps avant eux, d'autres aussi ont été une minorité. Seulement 8 au temps de Noé ont été sauvés. Alors, quelles que soient les options retenues, dans tous les cas, voilà bien ce qu'il faut avoir comme l'essentiel. Et nous pouvons avoir ici les réminiscences du psaume 110. Souvenez ce magnifique psaume d'intronisation du roi qui est rapporté à Jésus. Psaume de David, déclaration, proclamation du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Maggie Blanchard a un très beau chant là-dessus. Tu es vaincu par le nom de Jésus. Tu es vaincu. Tu mords la poussière parce que le Christ t'a mis sous ses pieds. Quelle autorité Dieu a-t-il donné à Jésus? Et parce que nous sommes en Christ, quelle autorité nous donne-t-il donc? Et dont nous sommes au bénéfice. Le Seigneur tendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. À toi le principat, à toi la tête, à toi l'autorité, à toi d'être devant au jour de ta puissance, dans l'éclat de ta sainteté, du sein de l'aurore, comme la rosée, je t'ai donné le jour. C'est un acte d'intronisation. Ce qui s'est passé, et bientôt nous allons vers l'ascension, et nous allons parler de Jésus qui est monté au ciel, réintronisé à la place éternelle qu'il a eue par le Père, par un décret éternel et solennel, comme une naissance royale. Vive le roi, vive notre roi, exalté, élevé, soit loué, soit élevé, nous avons chanté et nous chanterons encore. Oui, nous le croyons. Jésus, fils de Dieu, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, et a été enseveli. Ressuscité, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. J'aimerais conclure en tirant 2 conséquences. D'abord pour nous chrétiens. J'avais commencé par là. Et je rappelle, si nous lisons ce passage, c'est pour être encouragés. Et l'encouragement est celui de tenir bon dans notre foi, de persévérer malgré les diverses épreuves, en gardant une bonne conscience, nous dit l'Écriture, que quelques-uns ont perdu. Oui, en attendant son retour, de même que le Christ n'est pas inactif, l'Église du Christ, les chrétiens ne peuvent pas être dans la passivité. Ils ne peuvent pas non plus être dans l'oisiveté. Jésus éloigne de nous ces mots. Ce n'est pas juste Voltaire qui l'a dit. Il nous met au travail. dans un monde qui a besoin de la présence chrétienne. Je fais un clin d'œil à notre frère qui a écrit un magnifique livre « Que serait le monde sans les chrétiens ?» Allez le voir, il pourra vous parler de cette histoire. Magnifique. Que serait le monde sans les chrétiens ? Je ne vais pas répondre à la question, on a tant de choses à dire, lisez son livre. Mais je crois que, alors ce serait encore un plus grand chaos, une plus grande détresse. Alors je vous ai perdu parce que tous se demandent, mais qui a écrit ce livre ? C'est notre frère qui est... Enfin, pardon, j'oublie ton prénom. Michel, pardonne-moi. Michel a écrit un magnifique livre là-dessus, « Que serait le monde sans les chrétiens ?» Pour nous chrétiens, nous ne restons pas là en tournant les pouces. Nous ne restons pas là en faisant juste fonctionner l'Église. Jésus nous dit, dans ce monde qui continue d'être rebelle, vous avez une mission, vous avez un mandat. Et ça commence par humblement célébrer le Christ Seigneur dans votre cœur. Il n'était pas toujours en mesure de le proclamer comme nous on le fait librement. Il dit célébrez, reconnaissez Jésus Seigneur en votre cœur. Et si on vous demande, soyez prêts à rendre compte, à défendre votre foi, à défendre au sens non pas de on prend le couteau ou on prend les bombes, à défendre au sens d'être capable d'avoir une argumentation rationnelle qui rend compte de ce qu'on croit. Et voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre le credo, de comprendre les grandes affirmations de notre foi. L'autre chose, c'est qu'il leur dit, ayez un comportement qui montre que ce que vous croyez est juste. Un comportement adapté à ce que vous croyez. Brillez comme des flambeaux dans le noir. Ainsi, là où ils vous calomnient, où ils disent du mal de vous, au jour où Jésus les visitera, Pierre avait l'espérance. On ne peut pas se permettre de plus avoir d'espérance pour notre monde. On a l'espérance que le monde, que des hommes, des femmes de ce monde peuvent être sauvés. Et Pierre nous dit, afin que le jour où Christ les visitera, qu'ils reconnaissent vos bonnes œuvres et qu'ils louent le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons un comportement conforme à la pensée de Dieu. Ce n'est pas la peur des amendes. Ce n'est pas juste un conditionnement sociologique. Ce n'est pas juste une loi extérieure que nous suivons. Nous suivons la loi de l'esprit, de la grâce, de l'amour qui nous fait vivre en nouveauté de vie. Et maintenant, une application pour celles et ceux qui peut-être ce matin ne sont pas au clair. Mes amis, notre prédication, je dis notre parce que ce n'est pas juste la mienne, c'est celle aussi de l'Église. Est une proclamation, en fait, de la bonne nouvelle de Jésus. Vous l'avez entendu, mort, ressuscité, élevé et glorifié à la droite de Dieu. Et ce matin, elle est aussi une invitation à l'adresse de celles et ceux qui ne croient pas. Comme au temps de Noé, Dieu exerce encore la longueur de sa patience. Et Pierre le dira dans sa deuxième lettre, pourquoi ? Voulant que le plus grand nombre parvienne au salut. Voilà la volonté de Dieu. Que le plus grand nombre parvienne au salut. Alors aujourd'hui, je ne dis pas si, comme on traduit souvent, si vous entendez ça. Aujourd'hui, puisque vous entendez sa voix, puisque vous entendez l'évangile, n'endurcissez pas vos cœurs. Recevez avec reconnaissance la parole de vie, la bonne nouvelle de Jésus mort, ressuscité, élevé, glorifié, une fois pour toutes, afin de libérer chacun de nous de sa captivité. Quelle que soit la nature de cette captivité, elle se résume en peu de mots. C'est la captivité ou c'est l'esclavage du péché et de la mort. Or, vous entendez ce matin une proclamation de salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle est aussi pour vous, mes amis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Nous n'irons pas tous au paradis. Mais peut-être un jour où vos yeux se fermeront, peut-être alors celles et ceux qui sont autour de vous viendront poser des fleurs Peut-être alors aurez-vous un éloge funèbre, peut-être même une épitaphe sur votre tombe. Tout ceci est légitime. Mais ce matin, vous avez entendu infiniment mieux, infiniment plus, dès aujourd'hui, ici et maintenant. Vous pouvez recevoir le don gratuit de Dieu. Vous pouvez recevoir la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ. Vous pouvez être libéré de la peur de la mort parce que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, a triomphé non seulement sur la mort, mais sur toutes les puissances, visibles et invisibles. Et pour chacun de nous, il l'a fait. J'invite le groupe Louange qui va nous accompagner dans un chant en réponse à cette prédication, mais d'abord instrumentalement pour que nous puissions chacun nous positionner. Ce matin, j'avais vraiment sur le cœur de donner la possibilité à ceux peut-être d'entre nous qui n'ont pas encore répondu à cet appel de Jésus, à répondre, à revenir à la maison du Père. Tu peux rejoindre cette minorité en Christ qui a triomphé. Tu peux changer de camp, tu peux recevoir Jésus, tu peux repartir ce matin étant sauvé. Tu peux repartir ce matin avec le ciel dans ton cœur. Tu peux repartir ce matin avec la force qui est en Jésus-Christ.